Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Academy, pour cette émission Au fil des pages, reçoit Christiane Rancet, grand reporter, essayiste, romancière, qui a déjà publié 3 ouvrages, dont 2 biographies spirituelles parues au Seuil, Simone Veil, la philosophe, Le courage de l'impossible, Tolstoï, Le pas de l'ogre, et d'autre part, chez Gallimard, Christiane Rancet a publié, dans la collection Folio Biographie, Jésus. Christiane Rancet, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter Christiane Rancet, c'était où ? C'est toujours une profession en cours pour vous ? Sur quel terrain ? Quelles expériences ? Quels souvenirs ?
Alors oui, c'est toujours une profession en cours pour moi, bien que je sois maintenant ce qu'on appelle en anglais freelance, c'est-à-dire extérieur. J'ai commencé au Figaro Magazine et je travaille maintenant essentiellement pour le magazine Géo. Les terrains sont multiples. Ils sont plutôt, on va dire, dans du culturel, c'est-à-dire de l'histoire de l'art et un petit peu l'histoire de la spiritualité.
Jésus, Tolstoï, Veil, la philosophe, la Vierge Rouge, les grands sujets ne vous font pas peur. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer votre dernier livre paru aux éditions du Seuil, un livre intitulé « Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase », avec en sous-titre « Méditation sur la prière ». Expliquez-nous, quel est le chemin, Christiane Rancet, qui mène de la prière à l'extase, que vous voulez absolument qu'on ne vous enlève pas ?
Alors, d'abord, il faut préciser que c'est un vers d'Emily Dickinson, qui dit donc « Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase, et je serai plus riche que mes semblables ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un vers qui m'a frappée, parce qu'il dit effectivement que tant qu'il n'y a pas ce mouvement dans la vie, cette sortie de soi, extase, c'est sortir de soi, rien ne vaut, et que la prière est effectivement ce mouvement et cette façon d'arriver à sortir de soi pour rencontrer quelque chose, quelqu'un, peut-être rien, mais c'est le mouvement qui compte, de beaucoup plus grand et de plus haut que soi. Je dirais que la prière pose la question, effectivement, du sens.
Christiane Rancet, vous pratiquez la prière, vous connaissez l'extase ?
Non, hélas, enfin, l'extase telle qu'elle est déterminée effectivement par les méthodes d'oraison qui ont été très en cours au XVIIe siècle ou les méthodes qui ont été rédigées par Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, Sainte Thérèse et Saint Jean. Non, hélas, je ne l'ai pas connue parce que je ne suis sans doute pas suffisamment douée, mais j'espère effectivement la rencontrer un jour.
Voilà. Ouais. Alors, l'extase nous apporterait quoi ? Serait essentielle en quoi à nos existences ? Cette extase nous lierait à quoi ? Et cette extase ne nous désimplique-t-elle pas quelque part de nos rôles et de nos responsabilités sociales ?
Non, absolument pas, au contraire. L'extase, c'est un moment idéal, on va dire, c'est un idéal à atteindre. C'est-à-dire, l'extase, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où on est en union parfaite avec Dieu. On est en union parfaite avec Dieu quand on croit en Dieu, quand on est chrétien, juif ou musulman. Bouddhiste, c'est plus difficile puisqu'il ne s'agit pas de Dieu, mais en tout cas, c'est un travail, la prière est un travail de dépassement de soi et plus que de dépassement de soi, de sortie de soi. Et c'est un travail qui est extrêmement rigoureux, qu'il est très difficile de faire parce que il faut se débarrasser, il faut dégraisser sa vie de tous les objets matériels, de toutes les pensées qui peuvent l'encombrer, de toutes les petites mesquineries qu'on peut avoir, de nos narcissismes, et je dirais dans ce côté utilitaire dans lequel la vie moderne tente de nous enfermer.
Alors vous avez prononcé le nom de Dieu, donc ce serait un chemin merveilleux, mais accessible uniquement à ceux qui auraient la foi ?
Absolument pas. Ce qui est très beau dans la prière, c'est justement, c'est le mouvement lui-même. Il y a énormément de gens qui ont prié, effectivement, pour arriver à prier, pour croire, et qui posent cette question de Dieu, qui posent de toute façon, de facto, la question d'un sens. Ce qu'il y a de magnifique avec la prière, c'est qu'elle vient aux lèvres dans des moments essentiels de notre existence, que ce soit dans des moments d'adoration, de louange, de gratitude, où tout d'un coup le cœur déborde et on remercie le ciel, l'autre, l'un de tout, mais même chez des gens qui ne croient pas, ou des moments de détresse profonde où on appelle et il y a une question qui se pose non seulement à Dieu, mais à son prochain. La prière s'adresse à ces trois entités magnifiques qui sont l'un tout, l'autre, Dieu, le prochain et l'autre en soi, c'est-à-dire cette part divine, cette part de bonté, de possibilité de faire le bien que nous avons en nous.
C'est un message magnifique parce que chaque âme qui vit sur terre a donc droit à cette prière. Donc c'est quelque chose d'accessible à tout un chacun, quelle que soit notre condition sociale, professionnelle, que l'on soit riche, pauvre. Je veux dire, tout le monde y a droit.
Bien sûr, c'est le verbe fondamental. On est ici à Canal Academy. Nous avons des académiciens, des immortels, qui sont reconnus comme étant des orfèvres du verbe. Qu'est-ce que la prière, si ce n'est le verbe fondamental? C'est le fait de pouvoir, à un moment donné, formuler un état d'âme. On ne prie pas pour expliquer la beauté d'un arbre ou l'esthétique d'une voiture. La prière est l'expression d'un état d'âme, d'un sentiment, c'est-à-dire d'une porosité au monde et d'un rapport avec lui. Si nous mettons dans ce monde le fait qu'il a été créé par Dieu, si notre culture nous a amené à prier Dieu et à l'apprendre quand on était enfant, peut-être est-ce plus facile, on peut aussi avoir oublié ses prières, peut-être est-ce plus difficile pour des gens qui n'ont jamais eu cette éducation, mais en tout cas, il y a 1000 exemples, j'en parle dans ce livre, de gens absolument athées, d'académiciens d'ailleurs, qui ne pratiquaient pas, qui se disaient non-croyants et qui, un jour ou l'autre, se sont exprimés sur cette question de la prière et de cet appel.
Alors justement, deux exemples, Christiane Rancet, celui de Paul Morand, page 236 de votre ouvrage.
Oui, alors Paul Morand, donc, qui était tout à fait, on va dire, hermétique aux questions de foi, qui disait « refuser de mettre jamais le doigt dans les affaires de Dieu sur terre », avait fini quand même par dire qu'il croyait, donc je le cite, « je le crois en voie de formation, mais pas tout puissant. Il est sur le chemin de la toute-puissance et il a besoin de nous pour y parvenir. Dans sa lutte contre le mal, Dieu nous a créés, mais à notre tour, c'est nous-mêmes qui le créons, qui devons le créer tous les jours en étant meilleurs. » Fin de citation. Et il n'y a que la prière, effectivement, pour arriver à cette élévation et à cet état de cette crise de conscience que révèle la prière, que ce soit une conscience joyeuse ou une conscience malheureuse, qui va à un moment donné nous obliger à nous poser, à nous débarrasser de tout. C'est l'appel d'Emily Dickinson, « prenez-moi tout », c'est-à-dire tout ce qui m'encombre, et laissez-moi cette possibilité de sortir de moi et de réfléchir à ce que je fais sur cette terre et à poser de toute façon aussi la question du bien et du mal. Est-ce que je suis dans un rapport harmonieux avec ce monde, avec les autres, avec mon prochain? Est-ce que ce que je fais est, on va dire, non pas utile, mais en tout cas répond à mes attentes du cœur, de l'âme et de l'esprit ou non? Et la prière est un moment effectivement qui pose, même de façon induite, qui pose cette question.
Page 185, vous nous remettez en mémoire la phrase de Paul Valéry, « Au commencement était la blague et la blague était Dieu ».
Oui, Paul Valéry qui faisait partie effectivement des écrivains qui se voulaient se revendiquer comme non-croyants, on ne va pas dire athées, parce que lui-même n'a pas pu s'empêcher de poser cette question.
Comment transmettre cette mise en mouvement vers la prière, vers l'extase, aux générations futures? Parce que c'est leur offrir un cadeau plein de sens et plein d'amour. Alors vous parliez de travail illimité dans le temps, ici à l'Institut, auprès des immortels, etc. Mais c'est un travail, c'est-à-dire que, est-ce que cela s'apprend, se transmet, s'éduque? Ou est-ce une révélation à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous, selon son horloge biologique, spirituelle? Comment est-ce que cela s'effectue-t-il?
Alors, moi, je pense qu'il est bien d'apprendre aux enfants à prier, et la prière doit venir dans l'enfance, apprise par les parents. La prière a plusieurs phases, on va dire plusieurs aspects. Elle est la traduction d'une communauté, elle est une communion, et en ça, elle est très belle, c'est-à-dire, elle est un moment où les gens s'assemblent pour quelque chose de plus grand qu'eux, pour une parole qui est dépourvue de revendications, qui est pleine d'attente et d'espoir, mais dépourvu de revendications et qui crée une communion. J'étais à Rome, je suis allée un jour interviewer Andrea Riccardi de la communauté Sant'Egidio qui a créé des vigiles le soir à Santa Maria de Trastevere. Tous les soirs à 8h, les gens se réunissent et prient. Il invite des représentants religieux, puisque nous sommes à Rome et que donc il y en a énormément qui sont de passage, et il invite tous les représentants des communautés religieuses à se joindre à cette prière universelle pour la paix dans le monde. Il n'y a rien d'autre que cet acte gratuit, ce moment qui est vraiment une parenthèse dans la journée de très grande communion des êtres ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort et qu'apprend la prière et que je crois nous devons apprendre à nos enfants.
Dans les premières pages, dans le premier chapitre de votre livre, paru aux éditions du Seuil, « Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase », Christiane Rancet, vous faites appel à vos souvenirs d'enfants. Il y a une partie autobiographique dans ce livre.
Bien sûr, parce que écrire sur la prière, c'est infini. Et puis, c'est un petit peu aussi, il y a un abord un peu prétentieux. Je n'ai aucune autorité pour parler de la prière plus que d'un religieux. Mais, dès mon enfance, j'ai été très touchée par ces moments particuliers. Donc effectivement, je me rappelle les prières que m'a enseignées spécialement ma grand-mère et qui nous invitait tous les soirs quand on était avec elle, avec ma sœur et mon frère, mais spécialement avec ma sœur parce qu'on dormait toutes les deux dans le même lit, à réciter ce « Je vous salue Marie ». Et j'ai découvert dans ce moment très particulier, pour la première fois, ce que pouvait être le sentiment d'abandon et de confiance. C'est-à-dire, c'était une heure magique dans le sens aux yeux d'une petite fille, parce que brusquement, on oubliait son ego, ses querelles, on oubliait l'impatience qu'ont les enfants et on s'abandonnait à cet instant dans le rituel de ses paroles. Et c'est quelque chose qu'il faut garder, effectivement, et en communion avec ma grand-mère, avec ma sœur, c'est-à-dire avec des êtres qu'on aime, mais qui sont effectivement ceux de la famille et puis ceux de la grande famille de l'Église. Et c'est une chose qui m'a apprise, effectivement, cet abandon et cette grande douceur.
Alors justement, tout au long de la lecture de votre ouvrage, Christiane Rancet, outre ces rappels autobiographiques, comment avez-vous souhaité conduire cette réflexion sur la prière? Comment avez-vous construit, parce que c'était un sujet tellement immense, qu'avez-vous voulu nous transmettre?
Alors, des méditations justement, c'est-à-dire je ne donne pas de réponse, il n'y a absolument aucune réponse, ce sont des questions que je pose au travers de rencontres que j'ai pu faire, des rencontres personnelles, des rencontres effectivement dans mes reportages, des rencontres très fortes. J'ai pu rencontrer et voir de très près Jean-Paul Deprier. Et là, on comprend ce que veut dire le mot charisme, c'est-à-dire que Jean-Paul II, ce pape, dégageait, je dis bien dégageait, une puissance extraordinaire parce qu'il y avait une foi dans la façon dont il parlait, une puissance d'intériorisation et en même temps, voilà, c'était quelqu'un de radieux. Donc, je me suis posé la question de la force de la prière sur les gens qui pouvaient la voir, non seulement la dire, mais la voir. J'ai rencontré Mère Teresa à Calcutta, qui effectivement, elle priait d'une façon très différente, elle priait d'une façon extrêmement virile, très conquérante, elle priait avec une espèce, je dirais presque, plus que de la conviction, presque comme un combat. J'ai su après pourquoi, quand on a publié ses lettres après sa mort, donc le doute qu'elle avait, mais il y avait une fidélité à cette parole qui a une force d'exemple pour nous extraordinaire.
Oui, vous nous rappelez que ces documents personnels, elle souhaitait qu'ils ne soient pas lus, qu'ils soient détruits à sa mort. Ils ont été lus, ils ont été diffusés.
Oui, c'est-à-dire, elle avait écrit des lettres à ses confesseurs dans lesquelles elle exprimait et elle avouait l'absence de présence de Dieu dans sa vie. Parce que la prière, c'est aussi le désir d'une présence, comme me l'a dit Lucien Gerfagnon, avec qui j'ai travaillé, et c'était une parole d'autant plus forte de sa part qu'il l'a dite sur son lit de mort. Il m'a dit « Ah, la prière, ce désir d'une présence ». Et Mère Teresa, c'était exactement ça. Elle priait dans un désir de présence très puissant. Et quand on a su, après sa mort, que cette présence l'avait désertée, on comprend tout ce qu'elle tentait de mettre en œuvre pour la retrouver.
Oui, elle disait justement, vous rappelez ses paroles, elle disait à l'un de ses directeurs spirituels, « Jésus a un amour très fort pour vous. Quant à moi, le silence et le vide sont si grands que je regarde et ne vois pas, j'écoute et je n'entends pas, et mes lèvres remuent quand je prie, mais ne parlent pas. Je vous demande de prier pour moi. » C'est troublant comme parole, c'est à la limite déstabilisant pour cette personne que tout un chacun de l'extérieur peut voir animée par le souffle de Dieu dans tous ses gestes par rapport à toutes ces personnes qu'elle a pu secourir, aimer, prendre dans ses bras alors qu'ils étaient au seuil de la mort et de l'extrême souffrance. Et elle recherche Dieu.
Oui, mais c'est un exemple parce que c'est quelqu'un qui ne capitule pas. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà une femme, dans l'océan de souffrance dans lequel elle s'est plongée elle-même, en voulant lui apporter un recours, elle ne désarme pas, c'est-à-dire elle garde ses armes qui sont quand même la foi dans le désir de la présence. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette lettre, c'est qu'elle dit « priez pour moi ». Elle ne dit pas « tout ça ne sert à rien, je ne crois plus, je fais semblant ». Non, elle attend et elle est dans une patience et dans une attente extraordinaire. Simone Weil, la philosophe, a écrit dans ses carnets des phrases, des aphorismes magnifiques sur cette attente, sur l'extrême attention et l'extrême patience qu'exige effectivement la prière et ce désir d'une présence. La prière n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose effectivement qui tout d'un coup nous oppose à notre propre moi, ce qui doit brûler en enfer, cet ego qui peut être monstrueux, qui est très encombrant et qui est très encombré d'énormément de choses matérielles. Et c'est de lui dont il faut se débarrasser pour tout d'un coup accepter de se voir, se mettre dans un état de dénuement énorme et se laisser emplir d'autres choses. Alors c'est d'autant plus difficile que le doute est toujours là, que personne n'est totalement dépourvu de doute, Mère Teresa nous l'a appris, de la même façon que la prière de Job nous l'apprend, il y a effectivement ce travail contre le doute que la prière impose et demande.
D'autres rencontres qui vous ont mis en chemin, qui vous ont aidé dans votre construction, dans votre réflexion, dans vos prières?
Oui, bien sûr, j'ai rencontré Lucien Jaffagnon, qui était donc un historien et un philosophe, et historien de la philosophie et philosophe de l'histoire, avec qui j'ai mené pendant 2 ans des entretiens qui ont été publiés. Et Lucien Jaffagnon est quelqu'un qui avait une approche extrêmement riche de toutes les questions spirituelles, parce qu'il apportait effectivement dans sa réflexion sa propre foi, il disait être un mystique agnostique, son propre travail sur saint Augustin, qui est quand même un auteur qui a énormément écrit sur l'oraison et sur la prière, et je dirais sa propre démarche personnelle et son propre regard sur le monde. Et c'est lui donc qui disait, dans les dernières minutes de sa vie, « J'en suis à ce que disait Porphyre de son maître, à élever vers le divin ce qu'il y a de divin en moi ». Et ça, c'est une phrase qui est absolument magnifique, parce que elle doit être, elle a été pour moi en tout cas, une espèce de viatique de ce qu'on doit être dans la vie, c'est-à-dire élever ce que nous avons vers le divin, ce que nous avons de divin en nous. Très exactement, d'une certaine façon, ce que disait ce qu'on a lu tout à l'heure de Paul Morand. C'est-à-dire, la prière, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de vouloir que le monde soit comme il devrait être et pas comme nous acceptons qu'il est et comme nous faisons qu'il est, parce que nous sommes les acteurs de ce que nous regrettons.
Donc, dans cette même axe de pensée, il y a aussi la prière pour les morts de l'académicien Jules Romain.
Oui, Jules Romain nous apprend, donc je cite, Jules Romain écrivait dans son manuel de déification, « Si quelqu'un meurt de ceux que vous aimez, ne dites pas « je le retrouverai un jour, il est impossible que tout finisse ainsi et que nous soyons séparés à jamais », mais travaillez à ce qu'il survive. Parfois, vous vous sentirez pleinement au pouvoir des dieux et traversé par leur torrent, ramenez votre mort et abreuvez-le. »
Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ?« Ramenez votre mort et abreuvez-le ». C'est-à-dire que la mort n'existe pas.
C'est que nous faisons aussi la mort, nous faisons que les gens meurent 2 fois. Il y a la mort physique, qui est pour les croyants un seuil, et il y a ensuite la façon dont nous faisons que les gens sont morts et restent morts. C'est la fameuse parole du Christ, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est, nous ne devons pas nous laisser de notre vivant atteindre par la mort. Nous devons rester vivants, c'est-à-dire dans la parole, dans le verbe d'espérance, et appeler nos morts à le rester, c'est-à-dire à les évoquer, à prier pour eux, il y a une prière pour les âmes du purgatoire, mais en même temps à les prier de nous aider, c'est-à-dire à se dire, qu'est-ce que cette personne qui a disparu, qui est partie avec quelque chose de moi, m'a appris dans ma vie, aimerait que je fasse aujourd'hui? Comment est-ce que je peux ne pas céder à cette tentation? Comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux tout d'un coup continuer à le vivre, à vivre pour lui en même temps? Chaque fois que quelqu'un qui meurt, meurt, je pense qu'il faut le prendre en soi et vivre et continuer à faire à faire vivre sa vie, à le rendre vivant dans ce que nous faisons, à l'inviter à participer à notre propre vie, à continuer son œuvre. C'est ce que font les livres, c'est ce que font les académiciens. Hein. Donc ça, c'est ce côté, on va dire, l'immortalité.
Alors, passons à un autre immortel qui prie lui aussi, cette fois pour les suicidés. C'est la très belle prière de Monterland, d'Henri de Monterland, page 131 de votre ouvrage. « Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase, méditation sur la prière » qui est parue aux éditions du Seuil.
Alors, c'est d'autant plus, effectivement, cette prière de Henri de Monterland est d'autant plus bouleversante qu'il avait, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas la foi et qui a toujours plutôt avoué qu'il ne l'avait pas. Et quelques jours avant sa mort, par suicide, il va écrire « Les suicidés ont droit à un amour et à un respect particulier. Si j'étais chrétien, j'aurais enclavé au cimetière un lieu clos réservé pour eux, lieu non pas maudit, mais béni, et j'aurais composé une prière pour eux que je dirais tous les jours. » Effectivement, quand on sait quel est le sort que s'est réservé Henri de Monterland, on est frappé par ce mot de vérité. Et je reviens à la, effectivement, cette définition qu'on peut donner à la prière, c'est une parole de vérité.
Christiane Rancet, laissons nos non-croyants immortels pour maintenant donner la parole à des immortels croyants tels que Paul Claudel. Alors, vous l'évoquez par quelques lignes dans votre ouvrage.
Oui, en dehors de tout ce que Claudel a pu écrire sur la foi et sur la prière dans son œuvre, hein, dans l'annonce faite à Marie notamment, il y a cet exemple que donne Paul Morand d'une prière de Claudel qui avait à cœur effectivement la conversion, qui avait à cœur d'inviter les autres, ceux qu'il avait rencontrés, à partager sa foi. Il a tenté de convertir au christianisme André Suarez. Il était bouleversé par les gens qu'il aimait quand il savait qu'il ne partageait pas sa foi. Et donc Paul Morand raconte, quand il était avec Claudel autour du lit de Philippe Berthelot, un de leurs amis communs, il raconte donc Claudel, « Nous étions devant le lit de mort de Philippe Berthelot, boulevard des Invalides, autour de Claudel. Il tomba à genoux devant ce lit de mort et tous nous reculâmes devant l'immensité de sa douleur. Il priait avec toute sa foi pour ce grand ami incrédule, un croyant qui aimait citer ce vers de Louis Ménard, « Éternité, quelle est cette étrange menace ?» Claudel, justement, cet académicien qui va mourir en disant « Je n'ai pas peur », eh bien, cet homme, ce grand croyant, ce jour-là, avait peur pour son ami.
Et priait pour lui. Vous nous rappelez aussi quelques mots de d'Hector Bianchiotti, de très jolis mots, page 23.
Oui, donc Hector Bianchiotti, qui n'était pas du tout connu lui non plus pour, on va dire, sa foi et qui n'a jamais témoigné dans son œuvre d'une quelconque inquiétude, a écrit à un prêtre « Priez pour moi, j'ose vous faire un aveu sentimental, je ne m'endors jamais sans avoir récité les prières que ma mère m'a jadis apprises. » Donc ça, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, quelque chose qui est très joli de ces moments d'abandon et de confiance et très spécialement, je dirais, dans le « Je vous salue Marie ». J'ai rencontré beaucoup d'amis incroyants qui m'ont avoué avoir été amenés à prier un jour, avoir s'être retrouvé dans l'incapacité de prier Dieu et dans la nécessité, je dis bien la nécessité parce qu'il n'y avait qu'elle pouvait prier, de prier cette figure maternelle.
Oui, c'est ça. Marie, mère de tous, et qui ouvre ses bras, c'est l'amour maternel qui réconforte, qui apaise les douleurs profondes.
Oui, parce que je pense qu'elle incarne très spécialement ce pouvoir de la prière, du réconfort et de l'abandon.
Tout ce que nous avons dit aujourd'hui, Christiane Rancet, est-ce que ce sont des mots, des mises en route qui parlent à nos concitoyens de 2012 aujourd'hui ? Est-ce que la société qui va vers la haute technologie, qui va vers tous les domaines de science magnifiques, qui ouvrent des perspectives absolument superbes, mais tout cela va très très vite et vous nous demandez, c'est un appel à l'intériorisation de chacun, à un retour sur soi, à une sorte de contemplation, d'arrêt du temps. Le temps n'existe pas, mais arrêter le temps tel que nous le pratiquons, nous, au quotidien. Est-ce que c'est un discours qui passe aujourd'hui ?
Je ne sais pas si c'est un discours qui passe, mais je me suis aperçue, chaque fois que j'ai pu parler de ce thème autour de moi, que même, d'une certaine façon, avec quelquefois un peu de honte, les gens m'avouaient qu'ils s'étaient mis à prier ou qu'ils auraient aimé prier ou parvenir à prier. La prière est effectivement un verbe nécessaire parce qu'elle pose cette question du sens. Elle permet de s'arrêter, de réfléchir, de s'interroger, d'interroger le monde. Elle n'apporte pas de réponse, elle est un espoir qui est l'attente d'une solution. Et je pense que dans un monde qui est de plus en plus désespérant, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de signes d'espoir sur l'avenir qui nous attend, elle est effectivement la possibilité de cet appel universel et qui nous dépasse et de quelque chose de plus grand que nous, d'une attente plus grande que nous pour quelque chose de meilleur que ce que nous sommes en train de vivre et de ce que nous sommes en train de faire.
Mais dont nous pouvons parler entre nous, dont nous pouvons répandre et l'information et la bonne nouvelle, que c'est quelque chose, comme on le disait tout à l'heure, qui a un accès libre pour tout le monde. Je veux dire, tout le monde y a droit. Il n'y a pas d'injustice par rapport à ce partage. Tout le monde peut entrer dans cette, comment l'appelleriez-vous, dans cette dimension qui nous appartient, qui fait partie aussi de notre vie.
Ah, bien sûr, dans cette parole fondamentale, première, essentielle, et qu'on peut retrouver, mais dans énormément d'endroits, c'est-à-dire on peut prier devant un très beau paysage, on peut s'arrêter, pousser la porte d'une église et tout d'un coup se recueillir, on peut prier en écoutant un morceau de Jean-Sébastien Bach. L'art est une prière, c'est Kafka qui dit ça. L'art et la prière sont les deux mains tendues vers le ciel, c'est pour se donner qu'on prie, c'est pour se donner qu'on crée.
Christiane Rancé, merci de votre visite devant les micros de Canal Académie. Si vous me le permettez, Christiane Rancé, je remercierai de leur magnifique fidélité tous les auditeurs de Canal Académie en leur confiant la superbe prière de Mère Teresa que vous nous faites le bonheur de nous rappeler en page 152 de votre ouvrage paru aux éditions du Seuil. Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase, méditation sur la prière. Merci Christiane Rancé et je lis Mère Teresa à travers les pages de votre ouvrage.
Merci infiniment.
La vie est la vie, défends-la. La vie est une chance, saisis-la. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la, bras le corps. La vie est une beauté, admire-la. La vie est mystère, perce-le. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est une béatitude, savoure-la. La vie est bonheur, mérite-la.